On va reprendre le fil de notre célébration. On va reprendre le fil de la célébration par un petit verset dans Actes 1, versets 1 à 5. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »
Bonjour, bonsoir, je ne sais pas où on en est. Alors déjà, avant tout, j'aimerais vous dire exprimer toute la joie que j'ai d'être ici, au milieu de vous, dans la présence de notre Dieu. Ça fait du bien. Pour nous, c'est vraiment la rentrée ecclésiale. On a pris vraiment un temps de repos en famille et ça nous a fait du bien. Pour commencer, voilà, on va parler de ce que Christ est en train de faire avec son Église. Et pour commencer, j'aimerais ce soir vous poser une question toute simple. C'est souvent qu'on commence les prédications par une question. Bon. Qu'est-ce qui fait vivre une Église ? Alors, il y a des pistes affichées, là. Vous en avez peut-être d'autres. Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit ? Et c'est vrai qu'on peut avoir pas mal de réponses différentes. Mais effectivement, une prédication fidèle à la parole, là, on est tous d'accord. Une Église où l'on s'aime, où l'on prie, une Église missionnaire, missionnelle, peut-être une bonne organisation, ça c'est important. Bien sûr, des responsables engagés, une belle louange. Et toutes ces réponses ont une part de vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus prépare son Église, il ne commence par aucune de ces choses. Alors aujourd'hui, on commence une série dans le livre des Actes. Ce livre a été écrit par Luc, le même Luc qui a écrit l'évangile qui porte son nom. Il s'adresse ici à un homme appelé Théophile. On ne sait pas grand-chose sur cet homme-là. On sait que son nom signifie aimé de Dieu ou ami de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que Luc présente clairement les Actes comme la suite de son évangile. Et dans son premier livre, l'Évangile de Luc, il a raconté ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et maintenant, dans le livre des Actes, il va nous montrer la suite de cette œuvre. Alors, bien sûr, dans les semaines qui vont suivre, peut-être les mois, mais c'est parce que ça va être entrecoupé, notre série sera certainement entrecoupée de différentes choses, on va avoir des miracles, des conversions, des persécutions, des voyages missionnaires. Et on va avoir l'Évangile partir de Jérusalem et aller jusqu'à Rome. Mais Luc ne commence pas par tout ça. Il ne commence pas par la Pentecôte. Il ne commence pas par un miracle. Il ne commence même pas par une grande prédication. Il nous demande d'abord de nous poser et de nous arrêter. Imaginez la scène, les disciples sont là, Jésus est avec eux. Ils savent qu'une étape se termine, c'est évident. Jésus va bientôt les quitter. Ils sentent aussi que quelque chose de nouveau se prépare et est sur le point de commencer. Mais pour l'instant, tout est calme. Pas de foule, pas d'agitation, seulement quelques disciples et Jésus. Aux yeux du monde, cette scène peut paraître vraiment insignifiante, mais pourtant, c'est probablement l'une des réunions les plus importantes de l'histoire de l'Église. Et j'aime bien cette scène parce qu'elle rappelle que les grandes œuvres de Dieu commencent souvent dans une grande simplicité. On a tout un tas d'exemples dans la Bible. Bethléem, un enfant couché dans une mangeoire, David, un simple berger, et d'autres choses, etc., etc., une graine de moutarde qui devient un arbre, enfin. Dieu aime parfois commencer par des choses simples. Alors, on ne doit pas mépriser les petits commencements. J'ai souvent entendu Daniel, notre pasteur, nous dire « j'aimerais voir de petits commencements ». Mais remarquez surtout ceci. Pendant ces 5 premiers versets que nous a lus Pauline, les disciples ne font pratiquement rien. Ils ne prêchent pas, ils ne guérissent pas, ils ne partent pas encore en mission. Ils écoutent, ils regardent, ils observent, ils reçoivent et tout est centré sur Jésus. C'est lui qui parle, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui donne ses instructions et c'est lui qui fait une promesse. C'est comme si Luc voulait nous dire, dès le départ, avant de regarder ce que l'Église va faire, regardons ce que Jésus fait. Avant que l'Église n'entre vraiment en scène, Luc veut nous que nos regards restent fixés sur Christ, qui continue son œuvre. Et ça répond à notre première question. Qu'est-ce qui fait vivre l'Église ? Une Église vit parce que son Seigneur est vivant. Le livre des Actes ne commence pas par une Église qui agit. Il commence avec un Christ qui agit. Alors avant de regarder ce que les disciples vont faire, on va regarder ce que Jésus continue de faire. Et si vous voulez chercher dans vos Bibles, les Bibles blanches que vous avez sur vos chaises, on est à la page 706. Les 5 premiers versets de Actes, le premier chapitre de Livre des Actes. Et Luc commence ainsi. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et quand j'ai préparé, je me suis arrêté sur cette phrase, et en particulier sur ce mot « commencer », ce verbe. Parce qu'en fait, Luc, il ne parle pas seulement de ce que Jésus a fait. Il parle de ce que Jésus a commencé à faire. Ça signifie que l'histoire continue. L'évangile de Luc raconte le ministère terrestre de Jésus et le livre des Actes va nous montrer ce que Jésus continue de faire. Son ministère visible sur la terre touche à sa fin, c'est certain, mais son œuvre, elle, ne s'arrête pas. Et ça, c'est une grande clé pour comprendre le livre des Actes. On l'appelle les Actes des apôtres, mais en réalité, les apôtres ne sont pas les véritables héros de l'histoire. Quelques exemples. Qui appelle Paul sur le chemin de Damas ? Le Seigneur. Qui ouvre le cœur de Lydie ? Le Seigneur. Qui envoie Philippe vers l'eunuque ? Le Seigneur. Qui conduit Pierre chez Corneille ? Le Seigneur. Qui ajoute chaque jour des nouvelles personnes à l'Église ? Le Seigneur. Alors bien sûr, les disciples servent, témoignent, obéissent, mais c'est bel et bien Jésus qui conduit son œuvre. Et ça, ça me rassure. On est en début d'année, la scolaire, on l'a déjà dit, mais ça me rassure pour cette année qui s'ouvre. Ça me rassure. Parce que nous regardons parfois notre époque avec inquiétude. Nous voyons une société qui semble s'éloigner de Dieu. Et on peut se demander, que va devenir l'Église ? Que va devenir l'Église ? Eh bien, Luc nous répond dans ses premières lignes. Le Christ continue son œuvre. J'espère que vous en êtes convaincus. Il continue de sauver, il continue d'appeler, il continue de transformer des vies. Peut-être pas toujours de la manière dont nous l'imaginons, peut-être pas toujours au rythme que nous souhaiterions, mais il agit. Et ça nous rappelle une chose importante. Nous ne portons pas l'Église. C'est Christ qui porte son Église. Alors bien sûr, nous avons une responsabilité. Nous sommes appelés à être fidèles, à servir, à témoigner. Nous participons à l'œuvre de de Dieu, mais on ne la dirige pas. C'est un peu comme un enfant assis à côté de son père, vous lui donnez un petit volant, au volant en voiture. Et bien, il va conduire. Il a même l'impression de réellement conduire. Mais ce n'est pas lui qui conduit. Le Père tient le vrai volant. Et de la même manière, Dieu nous fait la grâce de participer à son œuvre. Et ça, c'est une grâce. Mais n'oublions jamais, c'est lui qui conduit son Église. Et ça, ça nous libère d'un poids énorme. Parce que parfois, on a l'impression que tout dépend de nous. Si j'y vais pas. Si on récite pas ça. Et puis si on n'est même pas assez nombreux, tout s'écroule. Mais non, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et il tient toujours sa promesse. Remarquons aussi que Luc écrit tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il aurait pu écrire, enseigner et faire. Mais il écrit faire et enseigner. Alors, je ne prétends pas construire une doctrine sur l'ordre de ces mots, mais je trouve qu'il y a quelque chose à relever, que chez Jésus, il n'y avait aucun décalage entre ses paroles et sa vie. Aucun décalage. Il vivait ce qu'il enseignait. Et ça, c'est le modèle pour nous. Notre témoignage ne dépend pas seulement de ce que nous disons. Il dépend aussi de notre manière, de la manière dont nous vivons. On peut très, très bien parler de Jésus. Mais est-ce que notre manière de vivre donne du poids à nos paroles? Nos proches voient-ils dans nos vies quelque chose qui ressemble à ce que nous annonçons? Jésus a vécu ce qu'il enseignait. Ça, c'est le modèle pour l'Église. Alors, retenons ceci. Ce qui fait vivre l'Église, ce n'est pas d'abord l'activité des disciples, mais c'est l'activité permanente du Christ ressuscité. Mais en se mettant à la place des disciples, à cette époque-là, une question se pose. Comment les disciples peuvent-ils être certains que Jésus continue réellement son œuvre? En fait, Jésus va bientôt monter au ciel. Ils ne le verront plus comme ils le voient maintenant. Alors comment pourront-ils annoncer son œuvre dans le monde entier? Comment pourront-ils témoigner d'un Seigneur qu'ils ne verront plus de leurs yeux? Eh bien, Jésus ne leur demande pas de partir avec une simple idée. Il ne leur demande pas de croire à une impression. Il leur donne d'abord une certitude. Il est vivant. Et c'est précisément ce que Luc nous montre au verset 3. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Là, j'étais un petit peu frustré. Parce qu'en une phrase, Luc résume 40 jours. 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Et dans cette phrase, il nous montre deux choses essentielles pour les disciples et donc pour nous. Jésus donne à ses disciples une certitude, il est vivant. Et il leur donne une vision, le royaume de Dieu. Luc commence ce verset 3 par « après avoir souffert ». Il aurait pu dire « après sa mort ». Non. Luc nous rappelle ses souffrances. Parce que la croix n'est pas oubliée. Le Christ ressuscité est celui qui est passé par la croix. Celui qui est vivant aujourd'hui est celui qui a souffert pour nous. Puis Luc ajoute « il se présenta à eux vivant ». Alors, je ne sais pas si on peut faire ce petit exercice de se mettre à la place des disciples. Ils l'ont vu, Jésus arrêté, condamné, crucifié, ils l'ont vu mourir. Ils pensaient que tout était terminé. Tous leurs espoirs s'écroulaient avec ça. Et maintenant, Jésus est là avec eux, vivant. Et Luc ajoute, il leur en donna de nombreuses preuves. Et là, le mot grec, c'est tekmerion, et ça parle de preuves convaincantes, vraiment convaincantes. Il n'y a pas de doute. Et Luc veut que nous comprenions une chose. La résurrection, ce n'est pas une impression. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une histoire inventée pour se consoler. Jésus s'est vraiment montré à eux. Il leur a parlé, il a partagé des repas avec eux, et cela pendant 40 jours. Et la foi chrétienne ne repose donc pas seulement sur ce que nous ressentons, elle repose sur quelque chose qui s'est réellement passé. Jésus est ressuscité. Les disciples ne vont donc pas annoncer une philosophie, ils vont annoncer un événement. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et c'est cette certitude qui leur donnera la force d'affronter les persécutions. Ils ne donnent pas leur vie pour une idée. Ils témoignent de quelqu'un qu'ils ont rencontré vivant. Et c'est vrai que vous savez cela aussi, Paul dira plus tard, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, inutile. » Et c'est vrai, si Jésus n'est pas ressuscité, ben tout s'écroule. Mais il est ressuscité. Alors ça change tout. Notre foi n'est pas simplement « j'espère que c'est vrai ». Notre foi repose sur cette bonne nouvelle. Jésus est réellement vivant. Et ça change encore notre manière de parler de lui. On ne parle pas seulement d'un homme qui a vécu. On peut parler d'un Seigneur qui vit. Mais Jésus ne se contente pas de leur prouver qu'il est vivant. Pendant ces 40 jours, il fait aussi autre chose. Il prépare leur regard. Il élargit même leur compréhension. Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir que Jésus est vivant. Il faut aussi comprendre pourquoi il nous appelle à vivre et à le servir. Et Luc nous dit que pendant ces 40 jours, Jésus leur parle d'un sujet précis, le royaume de Dieu. Luc ajoute, pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus prépare ses disciples, il les forme, et c'est nécessaire. Et de quoi leur parle-t-il ? Du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? Ce n'est pas un territoire, pas d'abord un territoire. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est là où Dieu exerce son autorité, où il accomplit sa volonté. C'est Dieu qui sauve, qui restaure et qui transforme. Jésus avait déjà beaucoup parlé du royaume de Dieu pendant son ministère. Et maintenant, après sa résurrection, il continue. Pourquoi ? Parce que ses disciples doivent comprendre que leur mission ne consistera pas à construire leur propre royaume. Ils vont annoncer le royaume de Dieu. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui. Parce qu'il est facile, même dans l'Église, de vouloir construire notre petit royaume. Mon activité, mon ministère, ma place, mes projets. Ça va vite. Et parfois, même sans nous en rendre compte, on peut défendre davantage notre place que le royaume de Dieu. Mais l'Église n'existe pas pour faire connaître notre nom. Ça n'a aucune importance. Elle existe pour faire connaître Jésus. On ne travaille pas pour notre royaume. Nous servons le royaume de Dieu. Le roi, c'est Jésus, et son royaume avance. Une fois de plus, peut-être toujours pas comme on l'imagine. Peut-être toujours, pas toujours à la vitesse que nous voudrions, c'est vrai. Mais Dieu continue d'agir. Alors voilà, Jésus prépare ses disciples de deux manières. Il leur donne une certitude, Jésus est vivant. Il leur donne une vision, le royaume de Dieu. Mais ça ne suffit pas encore. Ils vont bientôt recevoir une mission immense. Et ils ne pourront pas l'accomplir avec leur propre force. Ils ont besoin d'une force qu'ils ne peuvent pas trouver en eux-mêmes. Ou plutôt même, ils ont besoin de quelqu'un, la personne du Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, au verset 4 et 5, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Puis, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est quand même assez frappant. Que les disciples ont placé 3 ans avec Jésus, déjà. Ils ont entendu ses enseignements. Ils ont vu des miracles. Ils l'ont vu mourir et maintenant ils l'ont vu ressusciter. Et pendant 40 jours encore, Jésus les a enseignés. Alors moi, je dirais, bon les gars, c'est bon maintenant. On est prêts là. Partez ! Et Jésus leur dit, pas encore. Attendez. Pourquoi ? Parce que la mission de Dieu ne peut pas être accomplie avec de simples forces humaines. Les disciples ont été formés, et c'est nécessaire. Et c'est aussi pourquoi nous organisons des formations. Mais ça ne suffit pas. Ils ont vu le ressusciter, mais ça ne suffit pas. Ils ont besoin de recevoir ce que Dieu a promis, le Saint-Esprit. Et cette attente va leur apprendre une vérité qu'ils ne vont jamais oublier. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu, sans la puissance de Dieu. Et ça nous parle encore aujourd'hui. On peut être très occupé dans l'Église, organiser, servir, préparer, prêcher, chanter, enseigner aux enfants, participer à des forums, organiser des after-work, faire plein de choses. Et pourtant, oublier de dépendre de Dieu. Alors Jésus ne dit pas « ne faites rien », pas du tout. Il dit « attendez ». Attendez avant de partir, ne partez pas avec vos seules forces. Et le Saint-Esprit est justement cette promesse. Jésus parle de ce que le Père avait promis. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une solution de dernière minute. C'était bien prévu, c'était bien dans le projet de Dieu. Jésus ajoute, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on développera plus cette question dans le chapitre 2. Donc je ne veux pas trop empiéter sur la suite de notre série. Mais retenons cela. Jésus ne demande jamais à son Église d'accomplir sa mission avec ses seules forces. Jamais. Il est important de préciser une chose aussi. Les disciples, eux, doivent attendre le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'on est avant la Pentecôte. Ce que Jésus leur annonce est encore à venir. Mais pour nous, c'est différent. Le chrétien n'attend pas de recevoir le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'une personne place sa foi en Jésus-Christ, elle reçoit le Saint-Esprit. Notre besoin, c'est plutôt d'apprendre à vivre sous la direction de l'Esprit que Dieu nous a donné, à dépendre de lui et à ne pas compter sur nos propres forces. Et finalement, c'est tout ce que nous avons vu dans ces 5 versets. Jésus donne une certitude. Il donne une vision et il fait une promesse, le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il prépare son Église. Je conclus. On est à peine au début du livre des Actes. Et ces 5 premiers versets nous enseignent déjà quelque chose d'essentiel. Avant que l'Église ne parte dans le monde, Jésus la prépare. Et finalement, Jésus ne demande pas d'abord quelque chose à ses disciples. Avant de leur demander d'aller, il leur donne. Il donne une certitude, une vision, et il fait une promesse. Il les prépare avant de les envoyer. Et c'est là que ce texte nous rejoint aujourd'hui. Avant de nous demander « qu'est-ce que je dois faire pour Dieu ?» Peut-être nous avons besoin de nous rappeler « qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi ?» Christ est vivant. Il continue son œuvre. Il nous appelle à vivre pour son royaume et il ne nous demande pas d'accomplir sa mission avec nos seules forces. Peut-être certains parmi nous sont fatigués. Alors c'est la rentrée. Alors c'est peut-être pas le cas ce soir. Mais on a tous connu des périodes où nous servons, où nous donnons beaucoup et où nous avons l'impression que tout repose sur nos épaules. Alors souvenez-vous, vous n'avez pas apporté l'Église. C'est Christ qui l'apporte. Peut-être que d'autres sont inquiets pour l'avenir, pour l'Église, pour notre société, pour demain. Alors souvenons-nous, Christ continue son œuvre. Et peut-être certains se sentent incapables. pas assez fort, pas assez formé, pas assez compétent. Alors rappelons-nous, Dieu ne nous demande pas d'être capables par nous-mêmes. Il nous appelle à dépendre de lui. Alors avant de vouloir faire beaucoup de choses pour Jésus, prenons le temps de regarder Jésus, le Christ vivant, le Christ ressuscité et le Christ qui continue son œuvre. Parce que finalement, ce qui fait vivre l'Église, ce n'est pas d'abord l'activité des disciples, c'est l'activité du Christ ressuscité. Et parce que Christ continue son œuvre, son Église peut accomplir la sienne. Amen. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière en commun. Peut-être que certains d'entre nous ont besoin de remercier le Seigneur. D'autres ont besoin de retrouver cette confiance. Christ continue son œuvre, même lorsqu'on ne comprend pas tout. Peut-être nous avons besoin de lui demander de nous préparer, de nous rendre disponibles. Alors, je vous propose simplement quelques instants où chacun peut s'exprimer et je conclurai. Prions. Notre Père, nous voulons simplement te remercier pour ce temps passé ensemble devant ta parole. Merci parce que nous avons pu nous rappeler ce soir que ton œuvre ne s'est pas arrêtée lorsque Jésus est monté au ciel. Merci parce que Jésus est vivant. Merci parce qu'il continue son œuvre. Sois béni aussi parce que si nous sommes réunis ce soir ici, ce n'est pas simplement grâce à nos efforts, à notre organisation ou à nos activités, c'est parce que tu continues de bâtir ton Église. C'est vrai que je prie comme j'ajoute ma prière à celle de notre frère pour que nous puissions garder les yeux fixés sur toi et sur ton royaume. Que nos projets, nos choix, notre manière de vivre ne soient pas seulement centrés sur nos propres préoccupations, mais sur toi, sur ce que tu veux accomplir. Seigneur, on veut aussi se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tu connais en effet nos faiblesses, tu connais nos limites. Tu sais ce que nous sommes capables de faire et ce dont nous sommes incapables. Mais parce que tu ne nous demandes pas simplement de faire toujours plus, tu nous invites d'abord à dépendre de toi en comptant sur ton esprit. On veut te remercier pour ton amour, pour ta grâce et pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Et je trouve finalement très beau de terminer cette célébration autour de la table du Seigneur, parce que tout ce dont nous avons parlé ce soir commence là. Nous avons parlé d'un Christ vivant, mais si Jésus est vivant aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il est allé jusqu'à la croix, il a souffert, il est mort et il est ressuscité. Et lorsque nous prenons le pain et la coupe, on n'accomplit pas un geste religieux. Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. Nous nous souvenons que notre salut ne repose pas sur ce que nous faisons pour Dieu, mais sur ce que Christ a fait pour nous. Et on célèbre aussi cette merveilleuse espérance. Celui dont nous nous souvenons est vivant. Le Christ que nous célébrons ce soir n'est pas un souvenir du passé. Il est vivant, il est au milieu de son Église et il continue son œuvre et nous attendons son retour. Alors c'est dans cet esprit que nous allons prendre maintenant, ensemble, la scène. Mais juste avant de prendre le pain et la coupe, permettez-moi simplement de rappeler ce que ça représente. La Sainte Cène est un repas pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Elle est l'expression de notre foi en lui, de notre communion avec lui et avec son Église. Alors si ce soir vous êtes parmi nous, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ben sachez que vous êtes les bienvenus parmi nous. On est heureux que vous soyez là. Et je vous inviterai simplement, avec beaucoup de respect, à ne pas prendre le pain et la coupe. Non pas parce que vous n'êtes pas les bienvenus, mais parce que ce pain et cette coupe expriment une foi personnelle en Jésus-Christ. Et peut-être plutôt que de prendre ces éléments ce soir, vous pouvez simplement regarder, réfléchir et vous demander, et moi, où en suis-je avec Jésus ? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu précisément pour nous tous. Il a donné sa vie à la croix, prenant sur lui tous nos péchés. Il est mort, mais il est ressuscité. Et la foi en lui reste ouverte à tous, à chacun. Alors si vous ne prenez pas la Sainte Cène ce soir, ne vous sentez pas mis à l'écart. Et notre prière est que vous puissiez un jour prendre ce repas avec nous. Non pas simplement parce que vous êtes dans une église, mais parce que vous avez personnellement placé votre confiance en Jésus-Christ. Alors quand vous le souhaitez, vous pouvez venir vous approcher, prendre le repas. Ouvre les portes.